Je sais combien la vie est fragile. Il suffit d'une seconde d'inattention, d'une erreur d'appréciation au volant, d'une bagarre qui tourne mal. Et au bout du compte, la mort accidentelle qui survient. Au travail de deuil s'ajoute alors le terrible sentiment de culpabilité, sans parler de la pression de la machine judiciaire. Comment surmonte-t-on une telle épreuve ? Comment peut-on se reconstruire quand on a une mort sur la conscience ? Aujourd'hui, je vous propose de prendre le temps d'écouter l'histoire de Philippe. La vie de cet homme a basculé un soir d'automne, alors qu'il était dans son salon, au moment précis où il a entendu le bruit de sa porte d'entrée qu'on était en train d'ouvrir. Je suis Olivier Delacroix, bienvenue dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ».
À 48 ans, Philippe est professeur de sociologie.
Philippe.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Très bien, très bien.
Grosse moto, hein ? Vous en faites tout le temps ?
Pour moi, c'est presque 365 jours par an.
Bah, moi aussi, hein, à Paris, je suis en deux roues. La température n'est pas la même.
Parce que,
voilà. En fait, c'est après l'agression que vous avez décidé de passer votre permis moto.
Après l'agression, bon, ça a été un moment difficile aussi. On en reparlera. Mais donc ça a été pour moi aussi une espèce de thérapie, vraiment. Passer mon permis, puis...
Et s'envoler là-dessus.
Voilà.
On est ici dans le sud, pas loin de Montpellier, à une trentaine de kilomètres.
Ouais.
Vous avez choisi de ne pas tourner chez vous parce que, en fait, ça vous rappelait des mauvais souvenirs d'une soirée d'octobre 2009.
Bah oui, c'était difficile pour nous, pour ma femme, pour mon fils, pour moi, pour de vous accueillir chez nous.
Mm-hmm.
Parce que, évidemment, bon voilà, comme on le verra, il y a quelqu'un qui est venu chez nous, qui n'était pas invité, qui s'est invité lui-même. Et puis ensuite, il y a eu aussi beaucoup d'intrusions, bon, il faut le dire aussi, notamment des journalistes, notre maison a été filmée à plusieurs reprises, ils sont rentrés chez nous, dans nos propriétés, donc voilà, on ne voulait pas...
Ah oui, ils sont carrément rentrés chez vous ?
Oui, ils sont rentrés.
Sans votre autorisation ?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Mais bon, de toute façon, on a trouvé une très jolie maison, hein, pour que nous puissions parler tous les deux, à quelques mètres d'ici, donc voilà, on va parler de tout ça ensemble.
Bien sûr.
Cette agression dont il parle remonte à 2009 et le traumatisme qu'elle a provoqué n'est pas prêt de s'effacer. Car pour sauver sa petite famille, Philippe a tué son agresseur et tout cela en voulant simplement le neutraliser. Ce jour-là, il est 23h, il travaille sur son ordinateur dans le salon de sa maison, en compagnie de son épouse. Leur fils, lui, est à l'étage.
Tout d'un coup, j'ai entendu le bruit de la poignée de la porte d'entrée qui s'actionnait. Donc je suis allé voir, ma femme est allée sur la porte-fenêtre, auprès de la porte-fenêtre pour voir ce qui se passait. Elle a vu que le portillon qui donne sur le jardin était ouvert. Elle me dit de ne pas ouvrir, mais dans le même mouvement, j'ouvre. Et de suite, donc, un homme est arrivé vers moi, avec un pistolet automatique, cagoulé. Et il a braqué le pistolet sur ma tête. Et il m'a demandé de rentrer. Ma femme était juste derrière moi, donc on a été poussé à l'intérieur de la maison. J'avais le pistolet sur la tête. Et il nous a demandé de nous coucher dans le hall d'entrée, de nous allonger à plat ventre. Donc c'est ce qu'on a fait. Et comme on était en train de crier ou de hurler, notre fils à ce moment-là est descendu. Il était au premier étage, dans sa chambre. Il est descendu à ce moment-là et l'agresseur donc a braqué le pistolet sur mon fils et lui a demandé donc de continuer à descendre, de se rapprocher. Il lui a dit viens ici petit et il lui a ordonné donc de se coucher, de s'allonger à côté de nous.
Votre fils avait quel âge ?
Mon fils avait à l'époque 11 ans et demi.
Onze ans et demi.
Évidemment, j'ai compris que c'était. Enfin, j'ai compris. J'ai cru comprendre, en tout cas sur le moment, que c'était un simple cambriolage. Donc je lui ai dit, on n'a pas d'argent, mais il y a des cartes bleues, il y a des cartes, il y a des ordinateurs, il y a des portables. Et je lui ai dit, tu prends ce que tu veux. Et là, il a réagi, évidemment, de façon beaucoup plus agressive, puisqu'il n'a pas du tout aimé que je le tutoie.
D'accord.
Et donc, il m'a dit, pourquoi tu me tutoies? Tu sais pas qui je suis. Et on a senti un liquide froid qui coulait sur notre tête, sur notre nuque, sur notre dos. Et puis des irritations dans les oreilles, dans les yeux. Et évidemment, avec l'odeur, on s'est rendu compte que c'était de l'essence qui nous versait dessus. Donc, évidemment, il y avait beaucoup de gémissements. Hein. Mon fils, ma femme.
Ça devait être de l'horreur totale.
C'est la panique. Ouais. C'est la panique.
À quoi est-ce qu'on pense à ce moment-là?
On pense qu'on va mourir. Mmh. Puisque dans le même temps, quand il versait l'essence, et nous, évidemment, on s'agitait, il nous a dit « Bougez pas, sinon j'ai un briquet, je vous brûle. Toi, le père de famille, tu vas attacher ta femme et ton fils. » Et à partir de là, donc, ma femme a commencé à se relever. Et puis, elle est partie en arrière. En fait, il lui avait donné un grand coup de pied dans la figure. Et moi, je lui ai sauté dessus. Donc il était debout, je l'ai plaqué contre la porte d'entrée. Je ne sais pas comment, j'ai pris son poignet droit, et dans un mouvement, je lui ai fait tomber l'arme au sol. Et dans le même mouvement, je l'ai tiré vers moi, en le prenant par son sweatshirt. Et donc il est tombé. On est tombé en fait tous les deux sur mon fils. Et à partir de ce moment-là, je l'ai tenu au sol, lui couché par terre, moi en perpendiculaire. J'ai mis mon bras droit sous sa nuque et j'ai tenu avec ma main gauche, j'ai tenu mon poignet droit. Voilà, et on est resté dans cette situation.
Vous ne plus rien lâcher là?
Ah non, il n'était pas question de le lâcher.
Ouais.
Parce que...
Vous passiez de l'instant où vous vous étiez vu mourir, vous et votre famille, je suppose, à l'inespéré, en fait.
Oui, c'était un renversement de situation. En tout cas, il y avait une amorce de renversement de situation.
Oui, parce que vous n'êtes absolument pas habitué à vous battre.
Non, pas du tout. En fait, quand je lui ai sauté dessus, à partir du moment où je l'ai tiré vers moi et que j'ai libéré la porte d'entrée, ma femme est sortie pour... appeler les secours pour aller chez les voisins.
Elle a réussi à s'échapper à ce moment-là.
Elle est sortie et mon fils est resté avec moi. Et l'agresseur, donc, que je maintenais au sol, à ce moment-là, a commencé à s'agiter de nouveau. Il a failli me faire basculer. J'ai entendu mon fils derrière moi en train de me dire, j'ai le pistolet, si tu bouges, je tire. Et comme l'autre était en train de se débattre, j'ai dit à mon fils, tu poses le pistolet et tu sors pour rejoindre ta mère.
Lorsqu'il se débattait, c'était limite
c'était
entre vous ?
C'était limite, oui. Surtout la première fois, il a vraiment failli me faire basculer par-dessus lui. C'est pour ça que j'ai dit à mon fils de sortir, parce que je ne savais pas du tout si j'allais réussir à le maîtriser
à tenir,
ou continuer
ouais.
à le maîtriser. Et puis, là, c'est un grand moment de solitude. Là,
oui, parce que vous vous retrouvez en tête à tête avec votre agresseur. Mais est-ce qu'il vous parle, cet homme? Est-ce que...
Il m'a parlé une seule fois. Il m'a dit « Lâche, Joron, lâche-moi, Joron, lâche, Joron ». Voilà, deux, trois fois.
Donc, il connaissait votre nom de famille.
J'étais surpris sur le moment d'entendre mon nom, de voir qu'en fait, il connaissait mon nom. Évidemment, je ne pouvais pas savoir qu'en fait, véritablement, il me connaissait.
Ouais. Donc, vous le maintenez?
Je le maintiens au sol.
Il va se débattre encore après ou
Il va se débattre encore 3-4 fois. C'est-à-dire, c'était des moments où il y avait des moments d'accalmie et des moments où il essayait de me prendre par surprise. Donc je le maintenais. Je le maintenais bien.
Vous le maintenez combien de temps, cet homme? Parce que la police va arriver à un moment.
Je dirais qu'entre le moment où je le maintiens, où je le maîtrise au sol, et le moment de l'intervention des gendarmes, je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine de minutes.
Au téléphone avec la femme de Philippe, les gendarmes lui ont conseillé de ne pas retourner dans la maison. La précaution élémentaire lorsqu'un malfaiteur est armé. Au bout de 20 minutes, les gendarmes débarquent.
La façon dont je suis situé avec l'individu, j'arrive à voir la porte d'entrée qui est ouverte et je vois deux silhouettes. Ces deux silhouettes foncent sur moi, se jettent sur moi.
Là, est-ce que vous...
Bah là, je respire, là.
Vous respirez, là, ouais. Vous là, y croyez que ce sont les gendarmes, là?
Oui, parce que j'ai senti très rapidement les menottes derrière, donc...
D'accord.
Ils m'ont menotté, donc... Après, je suis resté un petit moment couché.
Oui, ils vous menottent parce qu'ils ne savent pas qui est l'agresseur et qui est l'agressé, en fait.
Tout à fait.
D'accord.
Et donc, c'est quand j'étais encore menotté que j'ai entendu donc l'un des deux gendarmes dire « l'autre est mort ». Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai... C'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il était mort.
À l'arrivée des gendarmes, Philippe est soulagé. Il va pouvoir enfin être libéré. Il y a quelques minutes, il risquait d'être assassiné avec toute sa famille. Désormais, c'est la fin du cauchemar. C'est tout du moins ce qu'il croit. Car au lieu de cela, les gendarmes vont lui signifier qu'il est désormais en garde à vue pour homicide. Interrogé à la gendarmerie, il ne pourra revoir sa femme et son fils que quelques heures plus tard, après que chacun ait été entendu séparément. C'est pendant sa garde à vue que Philippe va découvrir avec surprise l'identité de son agresseur.
Les gendarmes sont arrivés avec l'information selon laquelle cette personne était étudiante, en fait, dans mon université, en sociologie, et qu'il était donc inscrit en deuxième année de sociologie, et que donc il avait été mon étudiant.
Il était un de vos élèves, en fait.
Voilà. Ils m'ont présenté une photo aussi. C'était en fait une photo qui provenait de leur fichier, puisque c'était aussi une personne qui avait eu des antécédents judiciaires. Et là, c'est vrai qu'il y avait, je me suis souvenu de quelqu'un qui était venu, qui pouvait lui ressembler, quelqu'un qui était venu donc me voir, qui avait demandé à me rencontrer. C'était un an auparavant, pour me demander de remonter sa moyenne. Il avait vraiment eu une mauvaise année, en fait, une deuxième année qui n'avait pas du tout réussi. Et je lui ai dit que ça allait être difficile. Alors là, ça m'a surpris. Il m'a mis la main dans le dos, il m'a donné une petite tape comme ça dans le dos. Et puis il m'a dit on peut toujours trouver une solution, mon ami. Je dis, bon, ben, la solution, je pense qu'elle est toute trouvée, c'est-à-dire que vous allez devoir sans doute repasser vos examens. Et là, il est parti, il n'était pas spécialement content, évidemment, et je ne l'ai plus revu.
Jusqu'à ce qu'on vous présente cette photo.
Ouais.
À votre avis, aujourd'hui, quelles étaient ses réelles intentions
Pour les enquêteurs et pour le juge d'instruction, c'est une volonté d'assassinat. Il y a une tentative de triple assassinat.
Dans ce qui s'est passé, vous avez une mort sur la conscience. Le fait que vous serriez cet homme, que vous le mainteniez au sol, qu'il en est mort. Est-ce que le fait qu'il soit un de vos anciens élèves change quelque chose? S'il avait été un parfait inconnu, est-ce que ça changerait quelque chose pour vous?
Moi, j'aurais préféré que ce soit un parfait inconnu. J'aurais préféré que ce soit un simple cambriolage qui aurait tourné le mal. Mm-hmm. Mais là, il y a plusieurs choses qui me dérangent énormément. Évidemment, il y a la mort de quelqu'un. Ça, je ne peux pas faire autrement et je vis avec ça. Mais il y a aussi le fait qu'il me connaissait, il nous a suivis, il a fait des repérages. Et puis, il est voulu non seulement attenter à ma vie, mais aussi à la vie de ma femme et de mon fils. Et ça, c'est pas simple non plus à accepter.
Mais pourquoi ?
Ben en fait, l'enquête va déterminer qu'il avait eu des antécédents psychiatriques. Il avait déjà commis une agression par le feu également, en jetant des cocktails Molotov sur une maison, pour se venger pour des mêmes motifs en 2004. Et à la suite de ça, il avait été déclaré irresponsable et il avait été interné quelques jours.
Épuisé par sa garde à vue, il est conduit au tribunal et mis en examen pour homicide volontaire. Cette notification choque Philippe. Il a le sentiment d'être une victime et pourtant le voilà poursuivi pour avoir tué volontairement. En réalité, et cela, il ne le comprend pas sur le moment, cette qualification de mise en examen permet à la justice de pousser plus loin les investigations, mais elle a pour conséquence de casser aussi complètement le moral de Philippe. À la sortie du tribunal, Michel, son ami, l'attend dans un café.
Philippe est arrivé et on était très très émus. Philippe m'est tombé dans les bras, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Et je pense qu'il, lui, l'a ressenti comme une première délivrance. Hein, le fait de voir un visage ami après, c'est un moment fort.
Vous avez décidé de l'emmener chez vous
Oui, il y avait sans doute une inquiétude aussi. On ne savait pas s'il y avait des complices. La maison avait un côté menaçant. Leur maison avait un côté menaçant. Ouais. Elle avait été dans tous les journaux de manière extrêmement voyeuriste, hein, presque obscène. Il y avait le numéro de leur maison, il y avait les photos de leur maison, des caméras qui filmaient l'intérieur du jardin, etc. C'était très oppressant aussi,
très
parce que du coup, ça devenait un lieu public.
Ouais.
Donc j'imagine que pour eux, c'était aussi une manière de prendre un peu de recul, d'aller quelques jours au vert, de prendre du recul avec l'endroit lui-même, avec évidemment l'événement, mais avec l'endroit. Il y avait... en gros, deux versions qui circulaient dans les médias et qui l'ont perturbé, c'était de savoir si c'était un héros ou un assassin. Y compris, mais j'ai entendu des choses incroyables, on a dit qu'il était prof d'art martial, qu'il était spécialiste, je sais trop quoi, de l'hyperviolence, on était sur une espèce de délire...
Fantasme.
Complet, quoi. Et y compris, les qualifications judiciaires de l'affaire faisaient aussi que pour certains, il pouvait y avoir un quiproquo.
Ouais.
Parce que la victime... C'était l'agresseur qui était qualifié, puisqu'il est malheureusement décédé dans l'incident, il était qualifié judiciairement de victime. Et Philippe perdait, j'ai envie de dire, entre guillemets, son statut de victime. Mais la victime, c'est quand même Philippe, sa femme et son gamin. Moi, je l'ai vu traiter d'assassin. Donc ça, je pense qu'aussi, le fait d'être son ami, c'est de lui rappeler que c'était pas un assassin.
Ouais, de remettre les choses à leur place. Mais cet ami, il rassure son pote, comment ? En lui disant...
En étant à l'évidence, partageant autre chose aussi que uniquement les souvenirs immédiats de la tragédie, d'aller se balader dans le bois, d'aller faire une partie de pêche, de continuer à faire des choses qu'on faisait avant.
Michel et sa famille sont des alliés qui ont beaucoup compté pour aider Philippe et sa famille. Pourtant, les mois qui suivent l'agression sont très difficiles à vivre. Il faut dire que l'affaire fait la une de la presse. Les gros titres des journaux reprennent à leur compte des infos parfois fausses qui entretiennent la confusion sur la réalité de l'agression.
L'information provenait du procureur adjoint de l'époque qui, en conférence de presse, le lendemain de l'agression, c'est-à-dire au moment même où j'étais encore en garde à vue, avait donc indiqué... que je l'avais donc littéralement étranglé. Et donc voilà, moi j'étais consterné. Hein. Ça correspondait absolument pas à ce que moi j'ai vécu.
Bien sûr. L'autopsie d'ailleurs a révélé les causes de la mort et quelles étaient-elles ?
En fait, il est mort d'un arrêt cardiaque par une compression en fait du cœur entre la cage thoracique et la colonne vertébrale. Dans la mesure où mon flanc droit était sur son thorax, donc avec le poids, donc il y a eu une compression du cœur. Et en fait, il est mort d'un arrêt cardiaque.
Ça a changé votre rapport à l'autre ?
Dans les premiers mois, lorsque, par exemple, quelqu'un venait m'approcher, par exemple un étudiant ou une étudiante, avec, je dirais, c'est peut-être pas le terme exact, mais une certaine brusquerie, le fait de s'avancer un peu rapidement ou d'ouvrir une porte, voilà, ou de claquer une porte, ça me faisait sursauter. Donc ça, c'était, j'étais à fleur de peau en fait. Maintenant, je dirais que je relativise beaucoup de choses en fait dans ma vie. L'essentiel, c'est d'avoir un regard, je dirais, un petit peu, je ne veux pas dire nécessairement optimiste, mais en tout cas, de donner du crédit à la vie. Parce que si on ne donne pas du crédit à la vie, c'est la mort qui se rapproche.
Philippe a dû attendre un an avant d'être blanchi par la justice avec un non-lieu. Une décision capitale et déterminante dans sa reconstruction. Car à partir de ce moment-là, il redevient enfin la victime et non plus le professeur assassin de son élève. Aujourd'hui, je le sens enfin en paix avec sa conscience.
Ce que je ressens, en fait, c'est... Évidemment, je suis triste de cette situation, de ce qui s'est passé. Enfin, je regrette évidemment que cette personne soit décédée, mais je ne me sens pas du tout responsable de sa mort. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire, en tout cas pour le maîtriser, sans courir encore un risque pour les miens et pour moi-même.
Après ces événements, vous dormiez tous les trois ensemble, hein ? Votre femme et votre fils.
Oui.
Ça a été quelque chose qui a duré combien de temps, ça ?
Je pense que ça a duré, si ce n'est quelques mois, en tout cas plusieurs semaines.
Ouais.
Ouais. On s'enfermait dans la chambre. Voilà. J'étais complètement à côté de la plaque. Mmh. Ma femme, d'une certaine manière, elle tenait la boutique. Hein.
Ouais.
En fait, ça a duré le temps de l'instruction et jusqu'au moment où le juge d'instruction a déclaré un non-lieu.
Mmh.
Et au bout d'une année, donc, on va dire qu'il fallait reprendre
pied. Okay.
Donc, j'ai décidé aussi d'arrêter mon traitement thérapeutique en accord avec un psychiatre.
Aujourd'hui,
ça va ?
Comment allez-vous ?
J'ai avancé dans ma vie, professionnellement, dans ma vie de famille aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est un épisode comme celui-là, si on peut parler d'épisode, ça aurait pu casser un couple, c'est pas, et donc casser une famille. Parce que c'est évidemment, il y a des secousses qui sont vraiment très très fortes.
Mm-hmm.
Et non, au contraire, c'est encore
c'est
plus fort avant,
bien sûr. Bon, en tout cas, merci.
Voilà.
Bonne route.
Merci.
En quittant Philippe, je sens que parler de cette histoire l'aide à évacuer ce qui lui est resté sur le cœur et surtout à rappeler la vérité, à savoir que ce soir-là, un homme est bien venu l'agresser, lui et sa famille, et que si la fin s'est avérée aussi tragique, il n'en est en rien responsable.
Dans les yeux d'Olivier, le podcast est une production Europe 1 Studio avec Fanny Rascle et Kevin Ousty. Pour écouter la prochaine histoire, pour entendre un nouveau témoignage, je vous propose de nous suivre sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast sur l'application Europe 1. Et on se retrouve évidemment chaque soir du lundi au jeudi à l'antenne d'Europe 1 dans la libre antenne. À très bientôt.